On est sur le terrain et toujours en direct dans le rendez-vous ce soir sur France Culture. Il sera question de la Syrie, de l'État islamique, de grands reportages, de l'ORTF, de Maurice Pialat, du PSG et même de Jacky Merveille. Avec Michel Denisot pour ses brèves de vie, recueil de souvenirs d'un journaliste emblématique de la télévision de l'ORTF à nos jours. Quoi qu'il en soit, Benoît Lagane.
Retour sur le parcours télévisuel d'un ancien chroniqueur du Monde Agricole, passé par le Trésor d'Yves Mourouzi avant de s'imposer à Canal+, La Matinale, Télédimanche, Mon Zénith ou Le Grand Journal, quoi qu'il en soit.
19h30, place nette pour la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte. Ce soir, à votre programme, Xavier ?
Je vais enfoncer quelques portes ouvertes.
Comme la dernière fois ?
Comme toujours.
Et comme la semaine prochaine.
C'est vrai, tout ça au programme.
19h35, plateau Grand Reporter avec Sophia Mara qui signe Infiltré dans l'enfer syrien. 3 ans d'enquête en Syrie par une des rares journalistes à avoir pénétré les endroits les plus sensibles, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'une journaliste en colère qui revient avec la plume sur ses reportages avec l'envie de raconter les images.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Mais jusqu'à quand ?
C'est l'une des plus belles œuvres d'art au monde et elle ne peut pas être contemplée dans son intégralité. Il y a tant de sculptures du temple qui restent incomplètes et totalement hors de leur contexte. Le dieu grec Poséidon a son torse séparé entre la Grèce et le Royaume-Uni. Cela veut dire que personne ne peut contempler ces marbres dans leur intégralité à l'endroit d'où ils proviennent. Il est temps que le British Museum reconnaisse cela et renvoie ces pièces en Grèce.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et comme chaque jour, il date d'hier.
Oh presque, pas comme chaque jour. Alors celle que vous entendez là, c'est Amal Clooney, puisque c'est son nom maintenant, excellente avocate internationale et toute nouvelle épouse de George Clooney donc. La Grèce l'a engagée pour défendre sa cause dans l'affaire des frises du Parthénon et c'est un très beau coup médiatique. 60% de ces frises ont été achetées une bouchée de pain au 19e siècle par un lord anglais qui les a ensuite léguées au British Museum et qui ne veut évidemment pas les rendre à la Grèce. C'est l'un des cas les plus emblématiques du problème de la restitution des œuvres d'art. La Grèce et le Royaume-Uni ont entamé une médiation où l'UNESCO joue un rôle de facilitateur. Et si elle échoue, la Grèce ira devant les tribunaux internationaux. Et ce serait une première.
Le jour de mon anniversaire, quand j'ai dit maintenant j'embrasse tout le monde, c'était pour t'embrasser toi, tu sais. J'ai bien vu que tu me regardais. Je t'ai regardé aussi. Qu'est-ce que tu pensais quand on marchait ensemble dans la rue hier soir? Est-ce que je t'ai plu tout de suite? Tu te rappelles du soir où tu m'as dit? Quand je t'ai pris le bras, j'avais peur de paraître trop audacieuse, tu sais.
C'était la voix très singulière de Marie Dubois dans un extrait de Tiré sur le pianiste de François Truffaut. Marie Dubois qui s'est éteinte hier à l'âge de 77 ans. Elle fut l'une des actrices françaises les plus emblématiques des années 60 et 70. Et nous lui consacrons ce soir notre dossier du jour.
Oui, c'est François Truffaut, inlassable chercheur de visages et de femmes qui avait repéré Claudine Pauline Usée, puisque c'était son nom à l'époque, toute jeune comédienne lors d'une petite apparition à la télévision et qui en a fait l'actrice qu'elle est devenue, comme le raconte Serge Toubiana, directeur de la Cinémathèque et commissaire de l'exposition François Truffaut qui a lieu en ce moment même.
On peut dire qu'il l'a façonné parce qu'il lui a trouvé son nom, Marie Dubois, c'est pas son vrai nom, elle s'appelle Claudine Usée, H-U-Z-E. Il lui a trouvé ce nom qu'il a tout simplement emprunté au titre d'un roman de Jacques Audiberti, qui était un écrivain que Truffaut adorait. Après, il a fait faire des bouts d'essai qui sont magnifiques pour la tester, pour voir quel type de femme moderne elle incarne en 60. Et c'est vrai que c'est ça, je crois, qui lui a plu. Et qui fait qu'elle a été engagée pour jouer dans Tiré sur le pianiste, ce rôle de Léna, une femme douce. Et curieusement, il ne la reprendra que dans Jules et Jim, le film suivant, 62, où elle a un rôle de pétroleuse, comme ça, où elle s'amuse, elle parle très très vite, comme une mitraillette, elle parle plus vite que Catherine Deneuve encore. La relation s'arrêtera là, en termes cinématographiques.
En termes cinématographiques, car François Truffaut est resté très proche de la comédienne et de son mari, l'agent d'acteur et acteur lui-même Serge Rousseau. Marie Dubois qui joue tout au long des années 60 au cinéma et au théâtre, même si la maladie va bouleverser très tôt sa vie.
Oui, puisque quelques mois seulement après Tirer sur le pianiste, elle a des problèmes aux yeux, elle a des trous noirs et on diagnostique chez elle la sclérose en plaques, maladie dégénérescente contre laquelle il n'existe encore aujourd'hui aucun traitement. Les premières années, elle continue à tourner beaucoup. Une femme est une femme de Jean-Luc Godard, La maison des Bories de Jacques Doniol, Creuse, Les Arpenteurs de Michel Souter, Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet. Elle est aussi présente dans La Grande Vadrouille, le plus gros succès du cinéma français avant Les Ch'tis. Mais à la fin des années 70, eh bien, la maladie la rattrape, il lui devient de plus en plus difficile de tourner. Elle fait encore quelques apparitions, notamment à la télévision. Le réalisateur Paul Vecchiali l'a dirigée dans un téléfilm à titre posthume en 1986.
En fait, pour être tout à fait franc, je voulais Hélène Surgère et elle n'était pas libre. Donc j'ai immédiatement pensé à Marie, qu'elle représentait. Elle représentait une actrice délicate qui ne jouait pas de son physique. Elle était très jolie et elle ne jouait pas du tout de ça. Elle pouvait le faire, bien sûr. Elle voulait plus jouer des personnages habités. Je savais, j'étais au courant de sa maladie et j'ai trouvé intéressant de lui proposer un rôle pour la sortir un peu de son stress. Elle m'a dit tout de suite, vous savez, j'ai des problèmes de locomotion, etc. Elle marchait un peu difficilement, vous voyez, comme quelqu'un qui a bu. Écoutez, Marie, c'est un personnage de drogué, donc je pense que ça n'aura aucun problème. Et elle avait beaucoup ri à ce sujet, et on s'est merveilleusement entendu sur le tournage.
À partir des années 90, Marie Dubois disparaît des écrans, mais sort de sa retraite au début des années 2000 pour faire campagne pour la recherche sur sa maladie.
Oui, car celle qui a alterné les films d'auteur et les très grands succès publics est restée en fait très populaire parmi les Français, en incarnant finalement un peu l'archétype de la femme française. François Truffaut, avant de mourir d'ailleurs, avait écrit un texte sur ce qu'elle représentait. Serge Toubiana nous le lit.
Si j'ai suggéré un jour à Claudine Uzet de devenir Marie Dubois, c'est qu'elle incarne, comme l'héroïne de Jacques Audiberti, toutes les femmes en une seule. C'est elle qui conduit le taxi dans Paris, ou qui prépare son agrégation de philo, ou mieux encore, c'est elle qui prépare son agrégation le jour en conduisant son taxi la nuit. C'est elle qui prend le voile aux Ursulines et qui dispense d'horribles, merveilleuses faveurs aux clochards de la zone. Marie Dubois est une enveloppe dans laquelle on peut glisser n'importe quel message.
Voilà, c'est un texte que l'on peut retrouver, ainsi que les tout premiers essais assez savoureux, il faut le dire, de Marie Dubois. Ils sont à découvrir ou à redécouvrir dans l'exposition François Truffaut à la Cinémathèque. C'est jusqu'au 15 janvier prochain.
Et on passe au bref.
Et l'on ouvre avec le président chinois Xi Jinping qui, lors d'une rencontre avec des artistes, a prononcé un discours très proche de celui historique prononcé par Mao Zedong en 1942 sur l'art. Les artistes doivent servir le peuple et la cause socialiste. Xi Jinping qui les met en garde contre le fait de devenir esclaves du marché les invite à privilégier le patriotisme avant de rappeler que l'art et la culture ne peuvent pas se développer sans encadrement politique.
Pas de quotidien dans les kiosques aujourd'hui?
Non, le syndicat du métier du livre était en grève, donc aucun quotidien national n'a été livré en kiosque. Les grévistes craignent la suppression de plus de 190 postes chez le distributeur des journaux Prestalis.
La MC93 de Bobigny va fermer pour 2 ans.
Le théâtre entame de grands travaux, une belle mue et lance le festival Standard Idéal pour vivre hors les murs. 5 théâtres partenaires dont le Théâtre du Soleil, le Théâtre Sylvia Montfort accueilleront sa programmation internationale en attendant.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Michel Denisot, Sophie Amara? Michel Denisot?
Oui, on a appris que la femme de Georges Clooney était une avocate spécialisée dans les antiquités. Est-ce que je ne savais pas?
C'est l'air d'être une blague en même temps. J'ai l'impression que vous parlez de son mari.
Non, mais je cite les faits,
oui.
Un peu comme dans mon livre. Quoi. Je raconte des faits, après chacun en tire la conclusion qu'il veut.
Oui, mais plutôt vache. Hein.
Oui, un peu sévère.
Qu'est-ce que j'ai dit de sévère? Rien.
Qu'elle était spécialiste dans les antiquités.
Mais je ne savais pas.
Et donc,
je ne savais pas.
Parce qu'elle était la femme.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, c'est une très bonne juriste. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller, ils vont peut-être aller devant les procès, devant les tribunaux, et ce serait la toute première fois que ça arrive, ce serait une création totale de jurisprudence, et effectivement elle serait relativement compétente puisque vraisemblablement c'est une des meilleures avocates de Londres.
C'est tout simplement ce que je disais.
Exactement, parfait. Sophie Amara, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
Oui, c'est, de toute manière c'est un domaine qui est très intéressant de pour elle de traiter, et je le sais parce qu'au Liban il y a eu la même chose dans les années 80, en Irak le patrimoine irakien qui est extrêmement riche, c'est un patrimoine de toute l'humanité. Et là encore, il y a eu d'énormes abus, des destructions, mais aussi des vols et des déplacements d'objets d'art, de statues que l'on retrouve. J'ai beaucoup travaillé sur la Syrie également, pour y revenir. On retrouve des pièces de grande valeur sur le marché européen et américain, malheureusement. Et nous avons déjà travaillé, retrouvé certains noms et certaines galeries.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
plateau Quoi qu'il en soit avec vous, Michel Denisot. On va expliquer tout à l'heure cette histoire de Quoi qu'il en soit avec vous, Michel Denisot, journaliste, producteur, animateur de télévision depuis les années 70. Aujourd'hui, directeur de la rédaction du magazine Vanity Fair. Un parcours marqué essentiellement par 30 ans de Canal+, qui va fêter d'ailleurs son 30e anniversaire dans quelques semaines. C'est ce parcours que vous évoquez dans Bref de vie chez Fayard, un ouvrage qui compile de brèves histoires vécues, qui, je vous cite, vous raconte mieux que vous-même. Ça s'ouvre, et c'est intéressant, sur une citation d'Anton Tchekhov en exergue, « La brièveté est la sœur du talent », citation à laquelle vous ajoutez « La brièveté est la sœur du talent des autres ». Une explication peut-être sur ce jeu autour de cette formule de Tchekhov ?
Je trouve que j'ai travaillé beaucoup sur les brèves, c'est pour ça que j'aime ce mot et qu'il est dans le titre, fait partie du titre du livre. À une époque où je travaillais au journal de 20 heures et je faisais des brèves, et c'est vrai que quand on a 4 feuillets sur l'Afghanistan et qu'on doit écrire 2 lignes, on peut y passer sa vie, quoi. C'est un travail de moine ou d'autres religions, si vous voulez, mais en tout cas qui demande beaucoup d'humilité et qui n'est jamais parfait et qui demande de la virgule, doit être une information. Enfin, c'est tout ce que j'aime dans le métier, que j'ai pas toujours exercé ce métier de cette façon-là, mais c'est ce que j'aime profondément et ce que j'ai essayé de faire à ma façon dans ce livre.
Oui, à propos des brèves, vous évoquez l'influence d'Henri Marc, qui était rédacteur en chef à TF1 et qui passait son temps à vous expliquer les contraintes et l'intérêt de l'exercice. Quels étaient-ils selon lui
L'intérêt
des brèves et les contraintes, quelles étaient?
C'est un peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire d'être capable de résumer une histoire longue en 2 lignes. Et évidemment, ça veut dire qu'il n'y a aucun mot inutile, ça veut dire qu'il doit y avoir, chaque mot doit avoir une densité particulière et qu'au bout de 2 lignes, vous ayez l'essentiel. C'est comme un titre de journal qui doit informer dès le départ, ou voire même comme un nom d'émission de radio ou de télévision, qui doit déjà dire où on est, ce que ça veut dire, qui doit intégrer tous les paramètres du contenu.
Sophia Marin.
Oui, c'est un exercice
grand reporter.
C'est un exercice très formateur. J'ai fait mes premières armes en radio, 4-5 ans à RMC, et évidemment j'ai hérité des brèves. Et je trouve que on m'a rendu service parce que pour pouvoir bien résumer un dossier, qu'il s'agisse de la Tchétchénie, de la Somalie, du Rwanda, il faut bien le comprendre. Donc il faut lire beaucoup, et c'est comme ça qu'on peut en 2 lignes, 3 lignes coucher
après,
une idée
complètement. Un langage minimaliste qui est informatif.
Et un esprit de synthèse qui, par ailleurs, vous aidera toute votre vie. Donc c'est un exercice très formateur et très bénéfique.
Alors dans ce livre, Michel Denisot, vous évoquez toutes les périodes de votre vie à travers des souvenirs sans chronologie. Presque. Vous ouvrez sur votre rencontre, j'imagine qu'il y a des choses que vous n'avouez pas, vous ouvrez sur votre rencontre avec Marlon Brando en 2001 et vous concluez par un conseil que Roger Couder vous donne avant votre premier direct en avril 1970 à l'ORTF, Benoît.
Et il vous dit « Ton premier direct, évidemment, personne ne te connaît, alors quand on t'appelle pour te lancer, tu ne réponds pas. Ils vont t'appeler une deuxième fois, tu ne réponds pas. Tu ne réponds qu'à la troisième fois. En attendant, ils auront dit 3 fois Michel Denisot. »
Oui, tout à fait. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour mon premier direct, mais je l'ai fait après, quelques fois, évidemment. Mais c'est vrai que c'était un conseil de Briscard, pour ceux qui ont connu Roger Couder avec La Voix du Midi, qui était à l'époque le chantre du rugby. C'était une époque où il n'y avait que 3 chaînes de télévision.
Alors, s'il n'y a pas de chronologie dans le livre, en tout cas, il y a un centre très précis. C'est la rencontre avec Gérard Depardieu et plus précisément avec un duo de petits malfrats qu'il formait avec un certain Jackie Merveille. Qu'est-ce que représentait ce duo à Châteauroux dans les années 60 ?
Pour aller un peu plus loin, quand Les Valseuses, le film est sorti à Châteauroux, les gens ont dit c'est un documentaire. C'est-à-dire que ça retraçait vraiment ce qu'était Depardieu, et à la place de Devers, c'était
Jackie Merveille.
Jackie Merveille. Donc c'était un duo de gaillards de 14, 15, 16 ans qui n'étaient pas des grands voyous non plus, mais qui impressionnaient. En gros, si vous demandez l'heure, vous leur donnez votre montre et ça allait plus vite, quoi. Donc, on était dans une ville américaine. C'était la plus grande base de l'OTAN en Europe. Il y avait 5000 Américains à Châteauroux. Imaginez ça dans une ville de 50 000 habitants. Il y avait des Cadillacs, des Chevrolets de toutes les couleurs le soir dans les rues. Il y avait 4 ou 5, voire plus même, bars pour soldats en garnison. Et il y avait des trafics de cigarettes, il y avait des trafics en tout genre. Et Gérard a été très tôt dans cet univers-là. Et Jackie Merveille est mort très jeune, un peu à la James Dean, mais façon Châteauroux, quoi, d'un accident de voiture aussi. Une voiture qui a basculé par-dessus un pont, une voiture américaine, et qui s'est enfoncée dans l'Indre. Voilà.
Et donc, quelle était votre relation avec ce
Elle était assez lointaine. Tout le monde le connaissait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il il y avait une rue principale qui traverse Châteauroux, qui est l'avenue Victor Hugo, où c'était là, où le paraître était là à l'époque, et qui la arpentait régulièrement. Et bon, et en plus, moi, j'ai démarré très tôt dans un journal local à 15 ans à Châteauroux, et sa sœur Hélène était sténo aussi, et Gérard a travaillé un peu à l'imprimerie. Enfin, donc on se connaissait. On se connaissait comme tout le monde le connaissait.
Alors, vous êtes depuis un proche, hein, on le sait, de Gérard Depardieu. Il est présent à chaque première de vos nouvelles émissions de télévision. Vous vous souvenez des remarques qu'il a pu vous faire, justement, à l'occasion de ces premières ?
Non, il est assez élégant pour ne pas faire des remarques à chaud, parce qu'on sait que dans notre métier...
On n'en a pas besoin.
On les supporte mal. Quand on sort d'un studio, on a toujours envie qu'on nous dise que c'était bien, même si on a conscience que ce n'est pas toujours très bien, et que les remarques doivent venir après. Donc il est plutôt il comprend ça très bien, et quelquefois, après coup, il me dit... Il me fait des remarques sur des choses. Mais c'était dans les gens qui sont dans cet univers-là, que j'ai côtoyé, c'était Piala qui était le plus virulent et qui me faisait des remarques très acerbes.
De quel ordre ? Parce qu'on sait qu'il...
Un jour, j'avais invité Luc Besson à mon zénith à moi, un dimanche, et il m'appelle à 13h dès la fin. Il me dit, vraiment, je croyais que j'avais affaire à quelqu'un d'intelligent, mais t'invites vraiment n'importe qui, je ne te parle plus.
Ouais. Et il l'a fait, je peux imaginer très bien.
Ouais, ça a duré deux jours.
Benoît.
Alors, on découvre que, par exemple, Gérard Depardieu, c'est lui qui va permettre à Canal+ de récupérer l'organisation et la diffusion des cérémonies du Festival de Cannes. Oui. Jusqu'alors, ces cérémonies étaient diffusées par FR3. Mmh. Et parce qu'il était furieux de la façon dont la chaîne publique mettait en scène l'événement, c'est lui, donc, qui vient vous voir. Il vous dit, il faut que Canal+ récupère.
Il a fait la connexion. C'est ce qu'il fait un peu tous les jours, aujourd'hui encore, dans tous les domaines dans lesquels il voyage. Parce que c'est devenu un espèce de citoyen du désert et du monde. J'étais dans le désert il n'y a pas longtemps avec lui, dans le désert de la mort pour Vanity Fair il y a 15 jours. Et je trouvais être assez à sa place là, et il en était un peu d'accord. Donc c'est effectivement, après une cérémonie d'ouverture, c'était les premières années où à Canal on faisait des émissions là-bas, je faisais des émissions avec Coluche à l'époque, et il est arrivé direct, il était en pétard, parce que je ne sais pas ce qui s'était passé, j'y étais pas. Et il a dit, il faut que ça soit à Canal, la chaîne du cinéma c'est Canal, donc il y a eu une réunion assez rapide, Pierre Lescure, Gilles Jacob, et ça s'est fait comme ça.
C'est grâce aussi à Depardieu que vous rencontrez donc Maurice Piala, qui vous a même casté pour son film Sous le soleil de Satan. Vous deviez jouer un rôle de médecin. Comment lui est venue cette idée ?
Saugrenu.
Cette idée.
Ouais, cette idée. Il y avait un peu de perversité, parce que je pense que je n'ai vraiment pas fait pour ça. J'ai fait beaucoup de choses, d'autres sûrement pour lesquelles je n'étais pas fait, mais vraiment faire le comédien ou acteur, je n'étais pas fait pour ça du tout. Et Maurice Piala prenait un malin plaisir, parce qu'on avait une bonne relation, mais comme ça, un peu, il était très, disons, joueur, à essayer de m'embarquer dans les rôles. Et dans Sous le soleil de Satan, c'est vrai que j'ai fait les essais avec Sandrine Bonner, que j'ai fait le costume et tout. Puis finalement, le tournage s'est arrêté au moment où je devais y aller. Il y a 5 personnes qui ont fait le rôle, c'est un technicien qui a fait le rôle. Et quand j'ai vu plusieurs mois plus tard le film avoir la Palme d'Or à Cannes, je me dis franchement, ça aurait été une imposture que je sois là-dedans. Et après, il a continué, j'ai fini par faire un petit rôle dans Le Garçu, mais il m'a là aussi coupé au montage.
Là, il vous a coupé au montage. Là, vous avez interviewé Maurice Piala, notamment en 84 pour À nos amours. On sait que c'est un invité pas facile. Comment vous vous prépariez pour faire face à un tel personnage ?
Bah, peut-être un peu innocemment, sans trop d'appréhension, justement. En 84, j'avais pas fait beaucoup d'émissions de cinéma ni d'interviews de cinéma, et donc c'était sûrement des questions assez simples et pas de spécialistes, et je crois que c'est ce qui lui a plu dans notre première rencontre.
Et Piala a été très important. Vous écrivez, c'est lui qui a éduqué votre regard
au cinéma.
Au cinéma, oui, à quel niveau? Oui, oui.
Il m'expliquait les films, il m'expliquait les plans, il m'expliquait le rythme du montage, il m'expliquait pourquoi il prenait des gens qui n'étaient pas des acteurs, pourquoi il prenait des acteurs. Donc il était intarissable, c'était ça, la passion de sa vie.
Vous avez regardé des films ensemble ?
Non, on n'a pas regardé. Enfin, des films ensemble, non. J'ai assisté à des projections, oui, mais tous les deux, non. Pas à ce point-là, mais en fait, il avait une façon... pas comme les autres de parler du cinéma, quoi. C'est comme s'il était à la fois détenteur du cinéma et en même temps pas spécialiste. Donc c'était extrêmement agréable. Je me sentais pas à l'écart de la discussion, alors que j'étais profane et que j'étais pas un spécialiste non plus. Mais c'était, il m'a beaucoup beaucoup appris, et puis après chacun voit le. J'ai entendu une phrase que je ne connaissais pas de Marcel Duchamp hier, c'est le regard qui fait le tableau, et voilà.
Alors, après votre expérience de jeunesse comme journaliste à Châteauroux, vous entrez à l'ORTF à Limoges, et là vous allez apprendre le métier avec un certain Claude François.
Oui.
Pas le même, mais vraiment, entre Jacques Merveille et Claude François,
ouais.
Vous avez vraiment un aéropage. Ouais. Bon, qui était rédacteur en chef à la station régionale de l'ORTF du Limousin. Quel formateur il a pu être, parce que j'ai l'impression que c'était le théoricien du quoi qu'il en soit.
Oui, il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait pas tout le matériel qu'il y a aujourd'hui, donc on travaillait en regardant la caméra, en sachant les textes à peu près par cœur, enfin, donc il y avait un peu d'à peu près dans ces cas-là. Et il y avait toujours, le quoi qu'il en soit est une formule qui permet vraiment de passer du coq à l'âne, c'est une formule, une plaisanterie qui est par ailleurs dans mon livre,
oui.
Passer du coq à l'âne étant la chose la plus douloureuse pour la poule, et virgule, et genre... quoi qu'il en soit, oui, on peut parler. On peut, et donc, j'ai une autre anecdote avec le quoi qu'il en soit. Donc, Claude François, avec Yves Montand, qui m'a raconté une anecdote que je raconte aussi, qui est à l'époque où il était à Marseille, jeune, adolescent, et il n'y avait pas des grands shows à la télé, et il n'y avait pas The Voice. Et donc, il allait voir Maurice Chevalier à l'Alhambra. Puis, il y avait en première partie des chanteurs et des chanteuses locales et locaux. Et donc, alors, il y a un nom, je ne me souviens plus du vrai nom, mais le présentateur avec l'accent de Marseille, je ne veux pas me moquer de l'accent, mais enfin, il fait l'accent, et maintenant, nous allons recevoir la chanteuse locale, bon, je dis au hasard, Ginette Lebrun, et il y a quelqu'un dans la salle qui crie « C'est une pute !» Et il fait « Quoi qu'il en soit, elle va nous interpréter voilà. !» Donc, le « Quoi qu'il en soit » permet...
Ah ouais, parfait, s'en sortir à bon compte.
Et la bascule professionnelle, ça va se passer à Paris, avec Yves Mourousi, puisque vous co-animez le journal télévisé de 13h. Mourousi, c'est l'un des premiers en France avoir pratiqué le mélange des genres. Philippe Gildas le fera aussi, lui, notamment
après.
À la radio.
Ouais.
Et bien après.
Ouais, à la radio. Voilà. À la radio, il y a eu Yves Mourousi, il l'a fait ici à France Inter, à l'époque. Et puis ensuite, là, était le premier, vraiment. Quand on a fait le premier journal de 13h à TF1, qui était encore service public à l'époque. Et donc, on sortait d'une époque où l'information télévisée était quand même encore beaucoup sous la coupe de la politique. Et donc, il avait fait l'ouverture du journal avec une marionnette. Et on est remonté du plateau. Et le rédacteur en chef, Christian Bernard, nous a dit bah, « Écoutez, vous avez fait le 13h une fois, c'est fini, au revoir ». Moi, j'ai dit, bon, bah, je retourne à Châteauroux et puis j'ai déjeuné avec Yves après. Il me dit, t'inquiète pas, on va les avoir, on sera plus longtemps qu'eux. Bah, j'ai dit, mais t'es fou. Il dit, non, ils ont le 20h à s'occuper, on sera là demain. Et voilà. Donc, il a vraiment cassé, il a créé quelque chose qui est effectivement un lien entre le spectacle et l'information. J'ai beaucoup appris avec le fait que je sais, j'ai appris avec lui.
Et justement,
au
point même de dire, quand vous commencez à Canal+, que vous allez mettre le meilleur de ce que vous avez appris avec lui à TF1.
Oui. Oui.
C'est-à-dire quoi précisément?
C'est ça, c'est un, d'abord, de mettre la barre le plus haut possible. Tous les jours pour savoir avoir le meilleur casting possible par rapport à l'actualité. Et donc, si on tente de passer 2m16 et qu'on passe en dessous à 2m15, on est quand même déjà très haut. Donc, c'était toujours ça le principe, essayer de passer 2m16. Mais si quelqu'un vous dit on ne peut pas l'avoir, bah, c'est justement ça qu'on veut. Et Yves m'a appris ça et c'était très stimulant. Et il avait à la fois une capacité à avoir des relations avec tout le monde et être indépendant comme je n'ai jamais vu.
Alors à l'époque, vous animez la matinale de Canal+, le 7-9, c'est la première matinale de la télévision qui venait chasser sur les plates-bandes de la radio. C'est une émission que vous aviez conçue sur un modèle américain, le Good Morning America de ABC. Vous étiez même allé observer sur place pour analyser le fonctionnement. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné que vous avez voulu transposer en France ?
On n'avait pas les mêmes moyens, évidemment, que Good Morning America, mais c'est le rythme du matin qui est le même qu'à la radio, en fait, à la télévision. C'est-à-dire qu'on considère que les gens passent un quart d'heure devant la télévision au moment où ils prennent le petit déjeuner, le plus souvent. Donc, il faut que dans ce quart d'heure, où qu'ils soient, ils puissent entrer et sortir sans se sentir étrangers au programme. Mmh. Donc, il faut des séquences assez courtes de 4 minutes. Il faut des infos toutes les 15 minutes. Il faut qu'il y ait la météo. Voilà. Donc, c'était la rythmique, surtout, et pas de séquences longues. C'est comme le 19h-21h à la télé.
Benoît.
Alors nous demandons chaque soir à nos invités de nous soumettre une idée de son et voilà Michel Denisot ce que vous avez choisi.
Pour une fois que ce n'est pas Marguerite Duras que les gens choisissent, on en profite.
L'identification de ce son, Michel Denisot.
C'est le galop des chevaux sur des pavés. Je m'intéresse un peu aux chevaux. J'ai 2 ou 3 chevaux qui courent de temps en temps avec plus ou moins de bonne fortune, bonheur plutôt, et de fortune aussi.
Fortune aussi, non, le lapsus, il n'y en avait pas.
Non, il n'y en avait pas.
L'inconscient parle bien.
J'ai tellement peu de fortune. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce son-là. Il m'arrive de temps en temps d'aller à l'entraînement où sont les chevaux à Maison Lafitte. Et j'aime beaucoup le son des chevaux qui, dans la cour, quand ils sortent des boxes, avant d'aller sur les pistes. Voilà, ce son-là, c'est là, à ce moment-là, où on rêve et on se dit que ça va être formidable.
Sophia Marin, est-ce que vous avez une question pour Michel Denisot ? Je vous vois l'écouter comme ça, très attentivement.
Oui, je l'ai toujours beaucoup suivi. J'aimerais lui poser une question. Qu'est-ce qui a été pour vous, comme vous dites, vous avez été un des précurseurs de l'infotainment, comme on dit aux États-Unis.
Ouais. J'ai pas été précurseur, j'ai suivi ça, ouais.
Quelle a été la catégorie d'invités qui vous a le plus impressionné, sans nécessairement donner de nom?
C'est pas les artistes sont très formatés pour les, il y a pas beaucoup d'émotions en fait chez les artistes, sauf quand il y a un événement comme quand on produit Cannes et qu'un artiste a la palme, quelqu'un a la palme d'or, choses comme ça. Les politiques m'ont pas, c'est des machines. L'émotion vient plus des gens qui, je trouve que du monde de la musique qui est beaucoup plus sensible. Je vais pas chercher l'émotion de force, mais c'est vrai que si on cherche la vérité, est-ce que les gens soient vrais à la télévision, et c'est de plus en plus rare. Et puis les gens qui ont vécu des choses personnelles, c'est ce qui est souvent le plus fort aussi. Mais j'ai pas un exemple particulier. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement aujourd'hui, tout le monde est très, 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 très
formaté,
né avec la télévision. Ouais.
Alors vous évoquez dans votre livre à plusieurs reprises quelques moments clés de votre vie footballistique. Je rappelle que dans les années 90, vous aviez pris la direction du PSG, que vous avez été longtemps journaliste au service des sports de TF1 quand c'était public. Quelle a été la retransmission qui, pour vous, aura changé le plus la façon de filmer et de raconter le foot à la télévision? On recevait ici, il y a quelque temps, Pierre-Louis Basse, et il nous disait que pour lui, c'était le match Chelsea-Leeds à Wembley le 11 avril 1970. Pour vous, est-ce qu'il y aura comme ça un match, c'est un dingue, un match qui pour vous aura vraiment changé la façon dont on aura regardé la
télé? C'est vrai que Canal Plus a fait beaucoup évoluer la retransmission. Moi, je commentais les matchs à TF1 avant d'arriver à Canal Plus où il n'y avait pas de relation entre le réalisateur et les journalistes, chacun travaillait dans son coin. Enfin bref, tout ça a volé en éclat à Canal en 84 quand on a commencé à travailler avec Jean-Paul Jaude et Charles Bietri. Mais la référence avant cela, c'était effectivement les retransmissions en Angleterre. C'est-à-dire quand il y avait un savoir-faire très fort des Anglais sur le football depuis longtemps. Et c'est vrai que quand le gardien de but dégage et que le plan suivant, on est tout de suite en gros plan sur celui qui reprend le ballon de la tête. Donc il y avait une vraie expérience. Et surtout, les cadreurs étaient des spécialistes, quoi. Donc il faut que ça soit des spécialistes à tous les postes et pas quelqu'un qui est là aujourd'hui, qui demain va retransmettre la sortie à l'Élysée. C'est pas le même métier, quoi. C'est très, très particulier.
Xavier Delaporte, vous voulez...
Non, mais j'ai un souvenir parce que j'ai travaillé un petit peu à Canal+, et à ce moment-là, c'était le moment où Nicolas Sarkozy a été élu à la présidence de la République, et vous aviez été voir Jacques Chirac pour avoir la première interview post. Oui. Et il y avait deux anecdotes. Vous étiez sorti avec deux anecdotes qui ont fait le tour de Canal+ à cette époque-là. Je voulais savoir si vous en souvenez. L'une concernait Carla Bruni et l'autre Laurence Parisot.
Laurence Parisot, oui. Non, en fait, j'ai été allé le voir, j'ai passé une heure avec lui, avec Renaud Levent-Kim. Et donc, c'était un peu long, il nous parle de sa fondation et tout. Puis je savais qu'il voulait pas venir à la télé. Donc. Et puis, au bout d'une heure, il me dit, qui avez-vous ce soir à l'émission? Je dis, j'ai Laurence Parisot. Donc, il me dit, je ne connais pas Monsieur Parisot. Bon, moi non plus.
Mais personne ne le connaissait. En effet, c'était plutôt Laurence. Bon, d'accord. Ah.
Ouais. Et puis après, j'ai dit, il me dit, qui avez-vous ce soir? J'ai Eva Mendes. Alors, il me dit, je ne connais pas Eva Mendes. Donc, son assistant dit, je vais vous montrer Eva Mendes. Vous allez la regarder, voilà. Et puis, mais j'ai pas de référence sur Carla Bruni.
Carla Bruni, c'est quoi, Xavier Delaporte?
Non, je ne peux pas le raconter. C'était tellement vulgaire.
Il fallait le raconter alors.
Non.
Bon, on va pas le raconter. Dernière question, Benoît.
Oui, pour revenir au sport, c'est grâce à un autre genre de sport, un sport mécanique, que vous allez réussir à convaincre Coluche d'intégrer l'équipe de Canal+. Ça passe par une passion commune pour le stock car.
Commune, non. Enfin, disons que c'est la chaîne a failli, elle, au bout de 6 mois, elle n'allait pas bien. Quoi. Les abonnements n'avançaient pas. Et donc, Pierre Lescure a eu l'idée d'engager Coluche. Mais Coluche était ami avec Laurent Fabius à l'époque. Et Laurent Fabius n'était pas ami avec André Rousselet, qui était le président de Canal+. Et Laurent Fabius avait en tête de vendre Canal+, déjà, à Berlusconi. Coluche disait, je ne vais pas venir là, parce que ça va fermer, etc. Et puis, Paul Lederman, l'agent de Coluche, me dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'il vienne, mais il faut le convaincre, il faut lui montrer que vous l'aimez et tout, ce qui était la réalité, évidemment. Donc, j'étais un peu mandaté, enfin, même pas qu'un peu, mandaté pour Coluche. Son hobby de l'époque, c'était du stock-car dans le nord de la France. Donc, je partais avec Martine, avec ma femme, tous les week-ends. Bon, il savait pourquoi je venais. Hein. Et il, avait pas, il a vite vu pourquoi j'étais là. Et donc, au bout de quelques semaines, on a retransmis du stock-car un dimanche après-midi. On a tout fait, quoi. Et au bout de quelques semaines, donc, Coluche est venu à Canal. Et c'est, franchement, il a joué un grand rôle
dans l'histoire. Hein.
Dans l'histoire. Puisqu'il était l'après-midi à Europe et il faisait un vrai tam-tam à la fois pour les Restos du Cœur et Canal. Et ça s'est décroché. Et donc, à la fin de l'histoire... Donc, Paul Lederman, au moment du contrat, bon, moi, je ne m'occupe pas de l'aspect, mais enfin, bon, je suis allé jusqu'au bout. Et Paul Lederman dit, oh, t'as été bon. Et il me dit, très sérieusement, est-ce que t'es juif? Je dis, bah non. Il me dit, t'aurais mérité de l'être.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
La chronique avec Xavier Delaporte. On vous retrouve dans quelques instants, Michel Denisot et Sophia Marat. Chronique Place de la Toile pour le rédacteur en chef de Rue 89.
Et alors, ce soir, je vais faire amende honorable et enfoncer au passage quelques portes ouvertes, qui est un exercice plus périlleux qu'il n'y paraît. Alors voilà, d'abord, je vais être honnête, j'ai cru un moment que la télévision allait mourir et qu'elle allait mourir à cause d'Internet. Ça, c'était au moment où j'avais encore la télé. J'ai beaucoup aimé regarder la télévision, j'avoue, et surtout y regarder n'importe quoi. Zapper la nuit au milieu des rediffusions de talk-shows affligeants, d'émissions de télé-réalité un peu débiles, de plateaux dont on ne sait jamais si ce qui est dit est vrai ou pas, sérieux ou pas. Je pouvais regarder n'importe quel téléfilm à partir du moment où il y avait une prise d'otage ou un quiproquo amoureux, qui sont un peu mes deux situations fantasmatiques. Bref, j'ai passé ma vie des heures et des nuits à ces errances un peu vaines et inutiles. Et donc, au temps où j'avais encore la télévision, je me disais que tout cela allait bientôt finir, que plus personne n'allait s'imposer ça, que les gens allaient migrer vers d'autres pratiques, et notamment vers Internet, où l'on peut choisir ce que l'on regarde. C'était confirmé par l'augmentation spectaculaire de la moyenne d'âge des téléspectateurs. Je me souviens d'un sondage qui disait, il y a 6-7 ans, que l'âge moyen de téléspectateurs des principaux broadcasts américains était de 53 ans.
Bah, ça va.
Pardon, Laurent Goumar, excuse-moi.
Oh non, mais j'en suis pas du tout là. Hein.
C'était aussi accrédité par la baisse des revenus de la publicité. Et je me disais que nous allions assister à ce que Clay Shirky, l'éminent penseur des nouveaux médias, appelle l'effondrement des systèmes économiques complexes, systèmes fragilisés par la concurrence de ces entreprises du numérique, si légères, si adaptables, si peu soucieuses des droits de la concurrence et du travail. D'ailleurs, je ne regardais plus la télévision qu'avec un ordinateur sur les genoux, collé à Internet. L'étape suivante était de n'avoir plus qu'un ordinateur, c'était la logique. Et puis, un jour, je n'ai plus eu la télévision. Je ne me souviens plus pourquoi exactement, je crois qu'elle a cessé de fonctionner et puis on ne l'a jamais remplacée. Ça fait à peu près 5 ans. Et bien maintenant, je comprends que la télé ne mourra pas. J'ai compris à quoi servait la télévision. Depuis que je n'ai plus la télé, je n'ai plus ressenti ce que je ressentais en regardant la télévision. Je n'ai plus ressenti cet intense plaisir de la passivité, qu'il y a à s'asseoir, à appuyer sur un bouton, à regarder ce qui se passe. Ce qui se passe en zappant, en attrapant des morceaux de choses, des bribes de débats, des fins de films, des débuts d'autres, à être absorbé par des images sans grand intérêt, ou bizarres, ou surprenantes, ou parfois intéressantes. Bien sûr, sur Internet aussi, il arrive qu'on s'ennuie, qu'on n'apprenne rien et qu'on s'en veuille à la fin. Mais sur Internet, on doit décider, on passe son temps à agir. Aller là ou là, cliquer sur ce lien ou pas. Et on se perd si on ne fait pas attention sur Internet. On se demande toujours où on est. En cela, c'est extrêmement différent de la télévision. Et puis, je me suis aperçu que je n'avais plus le même rapport à l'actualité et aux gens qui font l'actualité, maintenant que je ne les vois plus qu'en photo. Je me suis aperçu aussi qu'était sorti de ma vie ce qu'on appelle le divertissement, qui n'a évidemment pas le même sens sur TF1 et chez Pascal. Pas Pascal, le grand frère, Pascal.
Non, j'ai compris.
Je vous le dis. Qui ont un point commun, c'est comme cette forme de divertissement, c'est une forme de plaisir dans le lâcher prise qu'Internet ne permet pas. Donc la télévision ne mourra pas. Parce qu'on aura toujours besoin de ça, et quand je dis « on », c'est pas tout le monde. Certains n'en ont pas besoin, certains détestent ça. C'est aussi parce que ça n'est pas tout le temps. Peut-être que la télévision correspond à certains moments de la vie, ceux où on a du mal à choisir, où on n'a plus envie de choisir, de la vie ou de la journée d'ailleurs. Donc on n'a plus envie de choisir, on ne peut plus choisir. Donc Internet ne tuera pas la télévision. D'ailleurs, mon idée première, la disparition promise de la télé, était une erreur théorique. Quand on regarde un peu l'histoire des médias, on s'aperçoit que les médias, à partir du moment où ils ont perdu une certaine masse critique, ne disparaissent pas quand un nouveau média vient les concurrencer. Le cinéma n'a pas tué le théâtre, la radio n'a pas tué le théâtre, la télévision n'a tué ni le cinéma ni la radio. Alors pourquoi Internet tuerait-il la télévision? Alors on pourrait répondre oui, mais Internet va intégrer la télévision. Il va y avoir une sorte de fusion, ils vont s'indistinguer. Alors c'est en partie vrai. Le poste de télévision est sans doute voué à disparaître ou à fusionner avec l'écran d'ordinateur. Mais cette fusion, techniquement, elle a déjà eu lieu. Ça fait longtemps que télé et Internet circulent sur les mêmes câbles et qu'on peut regarder la télé sur son ordinateur ou son outil mobile. Et pourtant, tout le monde fait bien la différence entre regarder la télé et aller sur Internet. Même pour regarder des émissions d'attrapage d'ailleurs. Pour la raison dite plus haut, parce que ce n'est pas la même expérience. Et je peux le dire aujourd'hui, l'expérience télévisuelle me manque. Pas pour ce qu'il y a dedans, mais pour l'expérience. De même que je trouve très bizarre un matin sans radio, de même que je frétille toujours quand j'entre dans une salle de cinéma, eh bien mes soirées ne sont plus les mêmes depuis qu'il n'y a plus la télévision.
Michel Denisot, depuis que vous avez, vous, quitté la télévision d'une façon ou d'une autre, quel regard vous portez aujourd'hui dessus ? Est-ce que vous continuez à la regarder ?
Je regarde beaucoup moins. J'ai vécu en overdose et je me suis désintoxiqué pendant un an. J'ai coupé beaucoup. Je ne regardais plus tous les soirs de 19h à 21h parce que ma vie était assujettie à cela pendant longtemps. Et aujourd'hui, je regarde les informations essentiellement. Le sport, voilà, mais les talk-shows, aujourd'hui je suis un peu en retrait de tout ça. Ouais, j'ai cru énormément quand je les ai faits, puis maintenant je vois ça autrement.
Quand vous faisiez de la télévision, vous la regardiez ?
C'est marrant comme on dit regarder la télévision, on ne dit pas qu'on l'écoute. Hein. Ah ouais. Et c'est vrai, souvent vous faites une émission, vous croyez que le contenu était bon, puis les gens vous parlent de votre cravate, donc ça a une humilité nécessaire, mais qui est assez fréquente. Non, aujourd'hui, je regarde, ça va, je consomme plus modérément. Voilà.
Benoît ?
Vous parlez d'écouter et de regarder. Nagui, ici même, nous expliquait que lui, quand il travaillait sur ses jeux, il montait les jeux au son, parce qu'il savait qu'on ne regardait pas la télé, mais qu'on l'écoutait. Vous avez vécu
ce genre d'expérience ? Oui, mais c'est à l'heure du déjeuner, ça. C'est à l'heure du déjeuner, c'est différent.
Les manifestants improvisent une danse, la traditionnelle ouara, devenue leur signe de ralliement à travers tout le pays. L'ambiance est bon enfant. À Rastan, tout le monde vient en famille. Sur les toits, le comité de coordination de la révolution dirige les opérations. Un projecteur pour éclairer la foule, un ordinateur pour la filmer. Les seuls moyens qu'ils ont pour rendre compte de leur mobilisation.
Plateau reportage avec vous, Sophia Amara, grand reporter au Proche-Orient. Vous êtes considérée comme la première journaliste occidentale à être entrée en Syrie à l'orée de la Révolution. On vient d'ouvrir sur un extrait de votre documentaire « Syrie dans l'enfer de la répression » qui avait été diffusé sur Arte il y a 3 ans. Un documentaire qui avait fait grand bruit à l'époque puisque vous étiez au plus près de l'insurrection, auprès des activistes et que vous aviez filmé les tortures et les horreurs de la guerre civile. Vous publiez aujourd'hui « Infiltré dans l'enfer syrien » chez Stock, un livre dans lequel vous revenez sur vos reportages là-bas, vos difficultés à atteindre les endroits chaud, vos rencontres avec des rebelles, jusqu'à la situation aujourd'hui avec la progression de l'État islamique. Pourquoi fallait-il en passer par le livre qui reprend les événements du documentaire ? Je vous pose cette question parce que c'est la première fois que vous écrivez un livre après une bonne dizaine de reportages. Sophia Amara.
Tout à fait, c'est une bonne question. J'ai estimé à un moment qu'il fallait se poser et écrire, d'abord pour des raisons technique, puisque par 2 fois j'ai perdu des collègues, et à cause de ces 2 morts violentes, ma rédaction à Paris a décidé ou n'a pas pu m'envoyer parce que c'était des chaînes publiques et le Quai d'Orsay s'y était opposé à la dernière minute. Et que par ailleurs, j'étais devenue un petit peu intoxiquée, j'étais devenue complètement addicted, accro, et il fallait que je me pose. J'avais perdu toute conscience du danger parce que je voulais à chaque fois y retourner pour en montrer plus, et il fallait se poser. La seconde raison, et je pense la plus importante, c'est que à un moment, j'ai senti le vent tourner et la Syrie s'enlisait dans le danger djihadiste, et c'était comme un appel au secours pour dire on est tous entrés en Syrie. Après ça, beaucoup de collègues y sont entrés, et c'est un appel au secours où juste pour essayer de montrer le gâchis qui allait avoir lieu en Syrie, parce que pendant des mois, voire des années, ces activistes, cette société civile s'étaient levés pour dénoncer 40 ans de dictature et proposer en échange un état de droit, proposer une démocratisation de ce pays qui a vécu des horreurs de 80 jusqu'à nos jours, et malheureusement ça continue. Et pour couper court à la propagande qui parfois même en France, commencer à se faire sentir pour dire « Eh bien finalement, pourquoi pas une dictature éclairée plutôt que les djihadistes qui vont venir et qui au final n'ont rien à voir avec les Syriens ou la Syrie, ou le combat dont on a rendu compte moi-même et d'autres collègues au plus près de l'enfer syrien ?»
Lucile Comeau.
Il y a une chose qui m'a marquée, c'est un chapitre qui s'intitule « Pacifique, pacifique », une répétition du mot. Vous travaillez les origines justement du pacifisme syrien en les rattachant à des mouvements qui les précèdent de non-violence à la fois serbe et américain. Quelque chose qu'on a assez peu entendu sur la révolution syrienne. C'était nécessaire de politiser le propos de ces activistes-là ?
Écoutez, j'ai beaucoup travaillé sur la question serbe, cette fameuse ONG qui avait été créée par Serdja Popovic, le leader de l'action contre Milosevic en 2000, qui a créé après cela une ONG et qui exporte entre guillemets les révolutions en kits. Ça, c'est un peu simpliste parce qu'en fait, Popovic et ce groupe d'activistes serbes se sont rendus auprès de plusieurs populations pour donner des workshops, des ateliers, mais ce ne sont pas les acteurs principaux de ces révoltes, il faut absolument le souligner ici. Oui, parce qu'en Égypte, ils avaient eu un rôle très important. Ils ont eu un rôle relativement important en Tunisie et ailleurs. Et pourquoi j'ai voulu le souligner ? D'abord parce que c'est assez intéressant pour le partager avec le public ou avec les lecteurs. Et deuxièmement, pour dire qu'en Syrie, justement, rien n'a été fait comme ailleurs. Les révoltes arabes ont eu lieu, elles ont réussi à débarrasser ces populations de dictateurs. Malheureusement, les transitions se font de manière très difficile, mais c'est le prix à payer après des décennies de dictature. En Syrie, tout est différent. La répression est différente, la longueur du combat est différente. Et même malgré ces formations au pacifisme dont ont bénéficié certains activistes, d'autres sont pacifiques par conviction, tout simplement, parce qu'ils sont comme ça. Et malgré ça, eh bien, la guerre a pris en otage tout ce pays, toute cette population, et leur pacifisme est mort à force de mois et de mois de répression, d'emprisonnement, de torture, d'assassinat, d'exil. Et c'est pour ça qu'il fallait en parler.
Le 8 février 2011, vous êtes au Caire. La révolution bat son plein. Moubarak tombera trois jours plus tard. Mais vous, vous quittez l'Égypte pour rejoindre la Syrie. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter à ce moment-là le cœur de l'action ? Est-ce que c'était une intuition, Sophia Amara ?
C'est mon rédacteur en chef. Mon rédacteur en chef qui a eu un pif incroyable et qui me dit « il faut que tu partes, ça bouge en Syrie ». Je savais que ça commençait à bouger, mais j'aurais jamais lâché le terrain en Égypte. Et en fait, il a eu une idée de génie parce que on souhaitait, en montrant dans ce documentaire l'onde de choc qui a secoué tout le monde arabe, on avait commencé en Tunisie, on avait filmé en Égypte, et à ce moment-là, en Syrie, on lance les premiers appels à manifester. Et à ce moment-là, ils me disent « ce serait génial que Moubarak tombe au moment où tu es à l'intérieur, au moment où il y a des appels à manifester en Syrie, qui est un territoire extrêmement fermé et où la population est quadrillée de manière redoutable. » Et donc, je rentre en Syrie et je suis dans la voiture pour aller rencontrer un des plus vieux opposants au régime d'Assad, père et fils. Et c'est à ce moment-là que le téléphone sonne, mon rédacteur à Paris qui me téléphone et me dit « Moubarak est tombé ». Et je rentre chez Michel Kilo, ce grand opposant qui est en exil aujourd'hui en France et qui me dit « c'est peut-être merveilleux, Moubarak est tombé, mais chez nous, ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes une population martyrisée depuis 40 ans. Les Syriens ne bougeront pas. » Et ils ont bougé un mois plus tard. Et malheureusement, aujourd'hui, quand j'en parle avec lui, il me dit « oui, peut-être ils ont bougé, mais le résultat est terrible. »
Une autre chose qui m'a frappée, ce sont les descriptions des trajets. Il y a beaucoup de descriptions de trajets parce que pour passer la frontière ou pour atteindre les lieux où ça chauffe vraiment, vous mettez des heures, parfois même des jours. Par exemple, 24 heures pour parcourir 33 km qui vous séparaient de Bab Amer. Comment on gère ce type de moments-là, les moments de transition qui sont aussi des moments d'attente et de grande angoisse, j'imagine ?
Oui, voire des semaines, parce que pour atteindre Damas, il nous a fallu 3 semaines pour parcourir 70 km. Je ne sais pas si vous réalisez c'est absolument terrible. Et ça prouve à quel point ce pays est sous le joug d'une dictature absolument terrible. On la gère en parlant aux gens, en écrivant.
Prenez des notes, oui.
Bien sûr, en prenant des notes, en posant des questions, en cherchant d'autres idées, en se disant, parce qu'on arrive avec ces idées dans un pays en reportage et peut-être qu'on est passé à côté de choses importantes ou qu'on n'a pas pensé à tout couvrir. Et alors donc, les échanges s'installent. Et ça, c'est les plus beaux moments. Parfois, il y a de l'angoisse, évidemment. Quand vous attendez sous les bombes ou quand vous attendez seul, quand vos passeurs vous laissent dans une maison, il m'est arrivé parfois une fois d'attendre dans une maison et ce sont des loyalistes qui ont débarqué. débarqué un jour, on habitait chez eux sans le savoir et qui allait prévenir la police immédiatement. Donc évidemment, le risque, le danger est toujours présent. Mais parfois, ça nous permet effectivement d'échanger avec des citoyens, avec des habitants, avec des activistes. Et c'est parfois des moments très riches.
Alors, comme nos invités... Oui, oui, Michel Denisot, vous aviez une question.
Reporter de guerre demande beaucoup de courage. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Exactement, oui. C'est
le
une question
que j'ai fait en regardant. Moi, j'ai une expérience insignifiante. J'allais une fois en Tchétchénie pendant 3-4 jours dans les années 90. Et c'était pareil. Il y avait très peu d'hommes et beaucoup de femmes.
C'était aux côtés de Manon Loiseau.
Oui, tout à fait.
Qui, une fois, est entrée avec moi en Syrie, effectivement. Oui. C'est un phénomène. Je rentre de Bayeux, du prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, où mon livre a été présenté au stand du Salon du Livre. Et effectivement, on se posait la question avec d'autres grands reporters femmes pour dire, mais et finalement, on est peut-être inconsciente ou est-ce qu'on...
Parce vous êtes courageuse.
On est maman, alors on a
c'est un boulot qui demande énormément de courage. Ouais. On ne fait pas le malin devant une caméra. Donc c'est l'humilité est plus féminine que masculine.
Et en tout cas, ça nous permet. En tout cas, on m'a souvent posé une question. Est-ce que le fait d'être femme, c'est plus difficile? Et en fait, en tout cas, dans ces zones-là, ça facilite la tâche. Parce que ces hommes, ces activistes, ces soldats déserteurs, ces combattants, lorsqu'ils voient une femme étrangère faire tout ce parcours et courir autant de risques pour, somme toute, faire un reportage, pour eux, l'important, c'est vraiment secondaire. Et donc, ils ont d'autant plus de respect pour vous et ils vous surprotègent parfois. Il faut peut-être même mettre un terme à leur protection. Et voilà, à leur protection. Oui. Mais en fait, ça rend le travail plus facile parfois d'être une femme.
Alors, quand même, tous nos invités, depuis la rentrée, on demande d'apporter un son. Et vous avez choisi, c'est une première, de lire un texte sur un fond sonore bien précis. On va vous écouter.
Le silence des papillons, été 2006. Les bombardements s'intensifient. Jade croit encore qu'il s'agit de feux d'artifice pour célébrer la victoire de la France lors d'un match de foot au Mondial de la même année. Les bombes se font de plus en plus proches et les morts commencent à tomber. Malgré ses 2 ans et demi, Jade comprend vite l'ampleur de l'offensive. Il réclame son père, mais il est bloqué en France. Sa mère court les champs de bataille pour les radios françaises. Jade est cachée dans une église que les raids aériens épargneront peut-être. Mais il faut bientôt fuir. Un missile passe au-dessus de nos têtes. Jade crie une dernière fois et tombe à terre, de peur, avec dans le regard une question à l'attention de sa mère. Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse. Jade ne parlera plus. Pendant des mois, il dessinera des centaines de dessins en art-thérapie. Pas de mort, pas de sang, mais des papillons. Encore et toujours, des milliers de dessins de papillons. Il mettra 4 ans à verbaliser sa souffrance. Jade ne dessine plus. Plus de papillons, en tout cas. Les papillons se sont tus, envolés, là où d'autres enfants souffrent encore, quand ils ne meurent pas.
Quel est le statut de ce texte, Sophia Amara ?
C'est une ébauche d'essai, le silence des papillons. C'est une histoire personnelle, c'est l'histoire de mon enfant, qui a beaucoup souffert de la guerre, 33 jours de bombardement au sud-Liban, et qui, pendant un temps, a cessé de parler. J'étais évidemment en plein reportage puisque c'était une guerre qui a éclaté entre le Hezbollah et Israël. Et à ce moment-là, évidemment, je couvrais les événements. Et mon fils, qui vit donc au Liban avec moi, a perdu momentanément l'usage de la parole, où il n'a plus souhaité parler. Et ça m'a donné envie de réfléchir sur... On parle beaucoup des femmes, on parle... l'enfance dans la guerre. Et j'ai eu la chance de suivre, pour faire d'autres reportages, des psychothérapeutes, des pédopsychiatres, sur l'impact de la violence de manière générale. La guerre en est une face extrême, et de l'impact de la violence sur l'enfant. Et ça, j'ai vécu ça dans ma chair. On parlait des femmes tout à l'heure. Je crois que c'est un peu exagéré. La femme a une capacité de donner, de par le fait peut-être qu'elle donne naissance, qu'elle donne la vie. Et donc, ça m'a poussé à réfléchir. Et je suis sur un projet personnel entre l'écriture et la fiction. En images, pour raconter à travers cette histoire où le rôle de moi-même et de mon fils sera vraiment secondaire. C'est un prétexte pour parler de la violence et de l'enfance dans ces régions où malheureusement la démocratie est encore un vague concept.
Dernière question, Lucille.
Oui, au détour d'une réflexion sur le cyberactivisme, vous racontez l'histoire de Steve Jobs, syrien par ses origines. C'est très étrange de le retrouver là, parmi les activistes que vous décrivez. Qu'est-ce qu'il représentait pour que vous l'incluiez dans cette galerie de portraits ?
La fierté de beaucoup de Syriens, d'abord. Très fier de ne pas toujours montrer qu'une donner une image d'un peuple violent ou en tout cas victime de violence, d'un peuple entre guillemets sous-développé, comme ils le disent eux-mêmes. Et aussi parce que j'ai été en rapport pendant longtemps avec l'oncle de Steve Jobs, qui était un chirurgien réputé de 70 ans, passé à tabac par la Chabia de Bachar el-Assad, lui et sa femme qui a perdu presque toutes ses dents, simplement pour se venger d'un concert donné par le fils, musicien, pianiste en Amérique, sous les couleurs de la révolution. Et donc le régime syrien de Bachar el-Assad. Et c'était sympathique d'avoir ce contraste, puisque le fils talentueux pianiste en Amérique, terre de Steve Jobs d'adoption, en tout cas c'est là qu'il est né, et il est considéré comme étant américain évidemment, avait été reçu, avait pu composer, avait été célébré, et que en Syrie, justement, la terre d'origine de Steve Jobs, eh bien, les parents, eux, de ce grand musicien, avaient été tabassés, passés à tabac, menacés de mort, traités comme des bêtes. La femme avait été frappée devant son mari. Et ce chirurgien qui me disait j'ai sauvé des centaines de vies, et aujourd'hui, j'ai dû assister à un puissant menotté au passage à tabac de ma femme. Et j'avais bien aimé le contraste entre ces deux dimensions.
Quand on sort d'un studio, on a toujours envie qu'on nous dise que c'était bien, même si on a conscience que c'est pas toujours très bien. Quoi qu'il en soit,
tout est différent.
Mais si c'était bien, merci à nos invités. Michel Denisot, Bref de vie, apparu aux éditions Fayard. Sophia Amara, Infiltrée dans l'enfer syrien. C'est aux éditions... C'est aux éditions Stock. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain, eh bien demain, nous recevrons l'artiste Sheila X à quelques jours de son solo show à la FIAC. Et à ses côtés, ce sera Monique Lévi-Strauss. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagagne, Lucille Como, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, Chronique, Xavier Delaporte, à la prise de son, Élise Le, Emmanuel Morse-Dincan et à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.